Merci d'être à l'écoute. Merci d'être à l'écoute et de nous avoir donné. Écoutez, vous nous avez fait du bien. Ça n'a pas duré longtemps. On va le refaire. On va le refaire. Si on voit qu'on a un peu de temps, là, on va soudainement débloquer les circuits. Vous allez nous dire comment vous êtes. Si vous êtes déprimé, c'est pas grave. Si vous êtes en forme, c'est pas grave. C'est, dites-nous comment vous allez vous sentir. Puis on va jaser un peu. Ça va nous faire du bien. Et en ce moment, important point de presse, celui de l'État de New York avec son gouverneur, Andrew Cuomo, parce que Sabrina Rivet, évidemment, c'était l'épicentre, c'est encore l'épicentre de la propagation du coronavirus aux États-Unis, l'État de New York.
Ouais, ce qu'on a pu apprendre dans ce point de presse, qui se continue d'ailleurs toujours, il y a 13 patients qui sont décédés du coronavirus dans un seul hôpital de New York en un peu plus de 24 heures. Alors, c'est ce qu'a annoncé le gouverneur de l'État de New York. Il ajoute que la pointe dans l'État de New York pourrait être d'ici 21 jours.
Oui, c'est beaucoup, hein? Mais avant, on disait autour du 15 avril. Ben, c'est ça. Ça nous conduit à peu près après Pâques et un besoin criant de lits dans l'État de New York et dans la ville de New York.
Oui, on parle de besoin de 140 000 lits dans l'État de New York et également plus d'équipements de protection pour les personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Alors, c'est ce qu'il a annoncé. Alors, du côté de l'État de New York, en fait, de seulement de la ville de New York, on est à plus de 26 000 cas. On est à 450 morts. Et si on regarde au total aux États-Unis, on est à 1 590 morts.
Une chose importante qu'il a dite dans son point de presse, qui se poursuit encore, nous devons à tout prix à New York, non seulement la ville, mais l'État, là, mais surtout la ville, nous devons à tout prix aplatir la fameuse pointe, la fameuse courbe de propagation pour nous éviter d'atteindre un sommet qui ne sera plus contrôlable.
Non, voilà exactement. C'est ce qu'il a dit au cours des dernières minutes. Et comme je l'ai dit, ben, la pointe pourrait arriver d'ici 21 jours. Alors, tous les efforts seront donnés là, pour qu'on évite, en fait, de se rendre à cette pointe-là. Et lorsque je vous parle, dans le fond, de ces 140 000 lits, c'est si on arrive, dans le fond, au top, un peu au pic.
Et c'est ça qu'il veut éviter.
C'est ce qu'il veut éviter. C'est ça. Et même, il y a 30 000 respirateurs qui seraient nécessaires si on arrive au bout également de la courbe. Alors voilà le point de presse de Andrew Cuomo, donc le gouverneur de l'État de New York qui se poursuit.
Ce sont nos voisins, nos relations commerciales, nos relations artistiques, nos relations de haine et d'amour avec les États-Unis sont indéniables. Qu'est-ce que vous voulez? C'est évidemment le grand frère qui est juste au sud. Il est passionné, lui aussi, des États-Unis, économiste, et évidemment, il a été l'un des premiers surpris, d'ailleurs, le soir de l'élection du président Trump. Jean-Marc Léger, bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour. On est surpris de Trump tous les jours.
Écoute, Jean-Marc, j'aimerais ça qu'on fasse un petit retour dans le temps, parce que toi-même, en début de soirée des résultats des élections, je me souviens de t'avoir regardé à la télévision, à TVA et à LCN, et tu n'arrivais même pas à croire, au soir même des résultats, que Donald Trump allait devenir président des États-Unis.
Non, parce qu'à l'époque, les sondages, et même les sondages ont montré que Clinton est en avance de 3 points. Puis le soir des élections, les premiers résultats sortent dans le Midwest américain. C'est les premiers résultats qu'on a et on voit que Trump est plus fort que prévu. Et là, on s'aperçoit que dans des États-clés, il gagne par 1 %. Il y a 6 États-clés qui ont gagné avec 1 ou 2 % d'avance. Le Wisconsin, Pennsylvanie, ces États-là lui ont permis d'être élu. Et là, on voit 3 ans plus tard les conséquences, parce qu'il a passé à travers toutes les crises inimaginables, Donald Trump. Maintenant, la crise, elle est très, très forte, parce qu'il ne suffit pas de mentir pour évacuer la crise comme il a fait depuis le début de cette campagne-là. Il faut affronter la réalité, parce qu'il y a 100 000 personnes, 105 000 pour être précis, aujourd'hui, de gens qui sont atteints d'un virus, et il y a des morts à tous les jours. Et ça se complique. Le problème, c'est que la tendance, elle est même à la hausse. 19 000 personnes hier ont été atteintes ou ont confirmé avoir été atteintes du coronavirus.
Et tu as entendu ce que dit, ben, en fait, tu l'as peut-être pas entendu, Jean-Marc, mais Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, craint que le maximum là, des mauvaises nouvelles arrive aux États-Unis dans 3 semaines seulement.
Oui, exactement. Il y a la moitié des cas, ou presque, 48 000 sur les 105 000, la moitié des cas sont dans l'État de New York. Et donc, l'État de New York, c'est vraiment l'épicentre des problèmes aux États-Unis. Puis le gouverneur Cuomo fait un travail extraordinaire à tous les jours. Il est sur le terrain à tous les jours. Il essaie de rassurer les gens, mais en réalité, le problème, c'est que les hôpitaux sont inondés. Ouais. Et ça nous touche, nous, au Canada, pas parce qu'on aura le même problème, mais parce qu'ils sont à notre frontière. les produits, les services, les travailleurs transfrontaliers, ce sont des gens qui sont proches de nous. Et ça, il faut suivre ça avec attention.
Est-ce que tu es d'accord, Jean-Marc, on peut se tutoyer, là, en situation de crise, on se tutoie. mais est-ce qu'on est d'accord, Jean-Marc, que la priorité dans la gestion de crise du gouvernement du Québec, ou toi qui fais des sondages, tu l'as constaté, l'ensemble des Québécois se sont ralliés derrière François Legault, Horacio Arruda, Mme McCann et les autres. Alors, on est d'accord là-dessus? Je pense qu'on n'a pas besoin de faire...
94%. C'est du jamais vu.
Bon, OK, on est d'accord avec ça. Est-ce que tu as deviné, toi, ta longue expérience en politique? Tu as eu un père qui a été ministre aussi.
Ouais.
Alors, est-ce que tu es d'accord à dire que pour eux, là, pour François Legault, mais pour tous les autres dans la gestion de crise du gouvernement, le but ultime, là, qui presse le plus, c'est que justement notre système de santé puisse résister et ne pas s'effondrer par la masse de gens malades qui viendraient avoir raison du personnel hospitalier. Est-ce que tu penses que c'est leur priorité en ce moment dans toutes ces annonces?
Oui, puis comme on a dit la journaliste juste avant, c'est d'aplanir la courbe. C'est-à-dire, oui, il va y avoir des cas de coronavirus, c'est pas tous mortels, mais s'ils sont moins bien traités, bien là, les conséquences sont plus graves. Donc, on passe une saison, la saison printanière, où on a affronté ce virus-là. Donc, tout le travail qu'ils font tous les jours, toute la pédagogie que François Legault fait tous les jours, c'est pour aplanir la course. Comment dire aux Québécois que c'est urgent, que c'est dangereux, et en même temps de les rassurer? C'est la balance entre les deux qu'il doit faire à tous les jours. Et jusqu'à maintenant, ça a fonctionné. Mais le problème qu'on a, c'est au moment où on se parle, il y a encore 20% des Québécois qui pensent que le risque est exagéré. 20%, Paul. 1 sur 5.
Et ça, tu l'as mesuré scientifiquement, là?
Oui, ça, je le mesure à toutes les semaines. Moi, j'ai décidé, comme firme de sondage, de faire un sondage à toutes les semaines, gratuitement, pour offrir ça à la population, pour voir où est l'état de l'opinion. Et il y a 17% des gens qui ne pratiquent pas la distanciation sociale. Ça veut dire que, donc, ils ne croient pas qu'en ayant 2 mètres d'écart, ça va permettre de limiter le virus. Et il y a un 7% qui ne veulent pas s'isoler. Ça, là, ce sont les irréductibles. Donc, même si la majorité fait le maximum d'efforts, tant qu'une minorité qui est irréductible, qui ne suit pas les consignes, la maladie va demeurer. Et c'est ça le vrai message de fond, le vrai message de François Legault tous les jours, c'est atteindre ces gens-là qui pensent que ce n'est pas important. Ce virus-là est mortel.
Qu'est-ce que tu penses, Jean-Marc, parce que on prend des commentaires de tout le monde et c'est pas une question de juger si tel commentaire est bon dans le mauvais sens. Il y a des gens, peut-être dans le 1/5 que tu as mentionné, peut-être dans le 17% qui se disent « Coudon, les probabilités sont que tôt ou tard, dans un avenir plus ou moins rapproché, à peu près 70% de la population va l'attraper, le coronavirus. Il y aura beaucoup de gens qui vont récupérer du coronavirus. Pourquoi exagérer avec des statistiques qui sont tenues de minute en minute, alors que, bon, somme toute, c'est grave, mais mettons, le virus a fait 23 000 morts, alors que le tremblement de terre de l'Asie du Sud-Est en 2004 en a fait 300 000.
Oui, mais le problème, c'est qu'elle va durer longtemps si on ne réussit pas, d'un, à aplanir. Donc, suivre les consignes, c'est aplanir la courbe. Puis en même temps, le chiffre de 70%, c'est que si rien n'est fait, à partir du moment où on s'isole, à partir du moment où on suit les consignes, cette courbe-là va diminuer au fil des prochains mois, puis en espérant qu'on trouve un vaccin avant qu'elle nous revienne à l'automne ou dans les moments subséquents. Et donc, il est possible de changer la trajectoire de la courbe. Et c'est ce que font actuellement les principaux gens. Parce que cette crise-là est une crise de santé d'abord, mais elle se transforme de plus en plus par sa longueur dans une crise économique. Paul, aujourd'hui, là, dans notre dernier sondage, 27% des gens n'arrivent pas à payer leur compte à la fin du mois. Un Québécois sur 4, 21% ont de la difficulté à payer leur loyer. Donc, le 1er avril arrive, là, il y a à peu près un locataire sur 5 qui n'a pas les moyens de payer son loyer. Et ça se transforme dans une crise économique qui est puissante. Les gouvernements essaient de rassurer, mais avant qu'on voit l'échec, ça va prendre une couple de semaines. Et tout ça se transforme dans une... par la suite, une crise de santé mentale. Et ça peut avoir un effet encore plus grand.
Alors, on va faire une pause, Jean-Marc, et revenir justement sur l'avenir à court terme. Pour tant de gens, on projette en ce moment des chiffres incroyables, inimaginables de taux de chômage. Non seulement ici, aux États-Unis et partout dans le monde. Mais Carlos Leitao, l'ancien ministre des Finances qui est avec nous, banquier, dit la priorité, essayons de régler la crise sanitaire, médicale, biologique Et après ça, on aura à mettre en place des solutions pour repartir graduellement. On va te demander, Jean-Marc, de réfléchir pendant la pause. Et nous vous revenons. Il est 12h34. Jean-Marc Léger est avec nous à 12h37. Merci, Jean-Marc. Je reviens donc à l'ancien ministre des Finances, Carlos Leitão, qui nous a dit que priorité à aplatir la Moses de courbe de propagation, de se sortir de la crise sanitaire mondiale. Il dit après, lui qui est banquier, économiste, toi tu l'es, économiste, nous aurons des solutions. Mais le problème, Jean-Marc, est-ce que c'est justement le fait que il n'y a pas de date de péremption sur cette crise-là? On ne peut pas dire avec affirmation, ça va être fini en décembre, ça va être fini en juillet, ça va être fini en septembre. Il n'y a pas cette date qui nous libérerait de notre anxiété.
Oui, mais on sait que ça s'en vient. Parce que regardez la Chine, regardez ce qui se passe au Japon, en Corée du Sud, au Singapour, quatre États où on a vu la courbe s'aplanir, et là, maintenant, il y a moins d'une centaine de cas à tous les jours, moins d'une dizaine de morts à tous les jours, donc c'est possible. L'espoir, elle est là, quand on regarde les cas asiatiques versus ce qui se passe ici en Amérique du Nord. Mais c'est certain que c'est d'abord une question de santé des gens avant d'une question de santé économique. Parce que la perte de la vie humaine, ça ne se mesure pas. Ça. Au moment où on se parle, vous avez 141 personnes qui sont hospitalisées, dont environ une cinquantaine en soins intensifs. Ce sont des drames familiales. Oui. Et nous, on voit ça comme des chiffres, mais chaque individu, c'est une famille qui vit un drame au moment où on se parle. Et ça, c'est nettement plus important que les dollars qu'on a. Ce qui n'empêche pas que le gouvernement a le devoir de soutenir les gens parce qu'il y a un stress psychologique qui est lié au fait que plusieurs personnes ont perdu leur emploi et tout ça. Donc, l'un va quand même avec l'autre, mais il y en a un qui est prioritaire. Et c'est ça le problème des États-Unis, parce que c'est l'inverse. Donald Trump se préoccupe de la cote à la bourse, hein, beaucoup plus que de la santé des gens. Et ses priorités sont à mauvaise place. Puis c'est pour ça qu'on a une conséquence comme vous avez aujourd'hui, là. La conséquence qu'aux États-Unis, c'est devenu l'épicentre et ça continue à tous les jours. Ici, on a fait un choix différent au Québec et on critique beaucoup le gouvernement Trudeau au Québec. Vous savez, dans mes sondages, c'est assez fascinant de voir la différence. Au Canada anglais, 75% des gens sont satisfaits de la performance du gouvernement Trudeau durant la crise.
Étonnant.
Au Québec,
étonnant.
44% seulement.
75 Canada anglais, le ROC, le Rest of Canada, donc 75%, 44% ici d'approbation.
Exact. Ici, il est très critiqué dans le reste du Canada. En situation de crise, les gens appuient leur leader. C'est pas une question est-ce qu'il est bon ou il est mauvais, c'est lui qui est là.
Ben, la preuve, c'est que Donald Trump, il y a quelques jours à peine, atteignait un taux d'approbation dont il n'avait même pas connu depuis son assermentation.
50%.
Incroyable!
Il a atteint 50%, c'est le plus haut taux depuis qu'il est élu, et il y a même 60% des gens qui approuvent la manière qu'il gère la crise. Mais ça, là, c'est vraiment tout dans le Midwest américain, dans des États qui n'ont pas encore connu la crise. Mais
c'est
jour
vrai.
Après jour, les premiers chiffres que je voyais ce matin, là, sa cote de popularité commence à descendre, parce que là, il y a une conséquence directe. C'est pas juste New York et la Californie qui est très démocrate, là. On arrive dans des patelins qui sont beaucoup plus républicains. C'est une question de temps, là. Les morts s'accumulent, ça aura des conséquences, là.
On est extrêmement inquiet, Jean-Marc, pour la Nouvelle-Orléans et la Louisiane. Ils ont connu une augmentation assez phénoménale des cas et surtout des décès. Ils étaient à 57 quand on a commencé l'émission ce matin. Eux qui avaient traversé, il faut s'en souvenir, hein, avec d'énormes critiques à l'endroit du gouvernement de George W. Bush, le célèbre ouragan Katrina.
Mais il faut voir qu'aux États-Unis, là, il y a beaucoup de cas de coronavirus, mais pour rassurer les gens qui nous écoutent, le taux de gens qui meurent est très faible. Il y a 5 personnes pour 1 million d'habitants, parce que c'est un gros pays. Il y a 2500 personnes qui sont mortes jusqu'à maintenant, mais la proportion par rapport à ce qui se passe en Italie, qui est 151 personnes par 1 million d'habitants, ou en Espagne, qui est 110 personnes par 1 million d'habitants, les proportions sont énormes en Italie. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de morts en Italie par rapport au reste. C'est comme si le virus s'est peut-être transformé. Je ne suis pas médecin, je ne veux pas donner un diagnostic, là. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de cas actuellement, mais il y a quand même peu de morts puis peu de gens qui sont en proportion.
Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu vois, c'est l'Espagne hein, qui a donné le ton également aujourd'hui avec plus de 800 morts. Taux de mortalité extrêmement élevé par 100 000 habitants. Tu as raison de dire qu'en ce moment, le coronavirus, dans le rapport du nombre de personnes qui ont récupéré, du nombre de personnes hospitalisées et du nombre de décès, c'est relativement faible aux États-Unis. Est-ce que tu ne crois pas, Jean-Marc, que c'est ce qui anime le président américain en disant « oui, on va perdre du monde, mais il ne faut pas perdre notre structure économique et notre monde économique.
Oui, mais lui, il est inconsistant. Il dit une chose le matin, le lendemain, il dit autre chose. Il est erratique. Il est difficile à suivre aux États-Unis. Il est difficile. Puis c'est pour ça qu'il y a des conséquences qui sont là. Parce que le problème aux États-Unis, contrairement au Canada, c'est que le système de santé est fait pour les riches. Ce qui va se passer, c'est que les pauvres ont même pas les moyens de se faire santé, de se faire soigner. Alors qu'au Canada, tout le monde va se faire soigner. Là, c'est pas parce que t'es riche ou t'es pauvre, tu vas passer au même niveau auprès du système de santé, ce qui est pas le cas. C'est pour ça qu'il peut avoir dans un deuxième temps une hécatombe aux États-Unis. Au Canada, on l'aura probablement pas. Vous voyez, si le taux est de 5 par million d'habitants, au Canada, il est de 1 par 1 million d'habitants.
Alors, donc, 1% de mortalité par rapport à nos cas. Autrement dit, ce que tu dis...
1% de mortalité, c'est 1 pour 1, une personne sur 1 million va décéder.
Ah, d'accord.
Actuellement. Bon, ça peut bouger.
Non, pas 1 sur 100. Ben oui, qu'est-ce que je dis là? C'est ça, sur 1 million, oui.
Exactement. C'est pour ça que le taux est moins élevé au Canada de mortalité en proportion, ce qui est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que forcément, la grippe, elle se promène. Mais au total, il faut quand même savoir qu'on a encore un 2 semaines de difficultés, peut-être 3 semaines. Les médecins parlent du pic, ce qu'ils appellent le moment où c'est le plus important, entre 2 et 3 semaines, dépendant des endroits. Et après, la vie normale va revenir.
C'est peut-être pour ça que François Legault a dit les mesures s'appliquent jusqu'au 13 avril pour se donner un peu de temps.
Oui, pour voir la courbe. Ce qu'ils veulent voir, dans le fond, c'est la fin de la courbe ou la diminution de la courbe. Et si vous regardez à tous les jours le nombre de cas au Québec, à partir du moment où ça va commencer à descendre de façon systématique, 3-4 jours consécutifs, ça veut dire qu'on est du bon côté de la courbe. Et c'est une question de temps. On va l'atteindre. Le problème, c'est d'être patient. Et quand on dit qu'une quarantaine dure 14 jours, Paul, une quarantaine, ça dure 40 jours, pas 14 jours.
mais je sais, il y a un nouveau terme. Il y a des gens qui disent « je suis en quatorzaine ».
Oui, mais 14 ans, c'est pas suffisant. Ça va être un peu plus long que ça. Mais quand même, faut pas penser qu'on va être pris dans l'été jusqu'à l'automne. Si on regarde ce qui se passe en Asie, la seule différence entre l'Asie et nous, Paul, c'est qu'ils ont vécu le SRAS de façon plus forte. Ils étaient davantage prêts que dans le monde occidental. C'est pour ça que les courbes ont été, se sont, alors,
tu vois,
bougies à la baisse.
Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Le SRAS, c'est tellement loin derrière nous. Il faudrait rappeler, mesdames, messieurs, que le syndrome respiratoire aigu sévère, qui était rendu à l'état pandémique, remonte à 2003, c'est bien
2003,
ça, Jean-Marc?
Exact.
On avait quand même eu 43 décès au Canada, mais à travers le monde...
Toronto avait été très perturbé par les décès.
Est-ce que tu te rappelles combien... Parce que j'adore les chiffres, comme tu le sais. Combien de personnes sont décédées de cette pandémie? 774 au total.
Au total,
dans le monde. Mais pour deux raisons. Mesures de confinement dès le départ, très, très, très sévères et précises. Deuxième affaire, c'est que le coronavirus, SRAS 2003, n'avait pas un comportement comme celui d'aujourd'hui. Celui auquel on fait face.
Il est encore plus contagieux et les pays occidentaux ne sont pas armés de la même manière. Les pays asiatiques étaient prêts. Les pays comme la Chine, par exemple, ont pu faire des gestes très rapidement sans être critiqués à cause du régime communiste qui est en place, là, qui a beaucoup de mauvais côtés, mais qui a, disons, un bon côté au niveau de la santé. Mais alors qu'en Occident, on a pris beaucoup de temps, puis le président américain est le meilleur exemple. Les États-Unis avaient presque pas de cas il y a 2 mois. Ça, il y a 3 mois, on ne parlait même pas de cette maladie.
Ben non, avec Richard. Écoute, avec Richard Châteauvert, il y a 3 semaines. 3 semaines. Il me dit, on n'a aucun cas à New York et les gens font comme un samedi soir à New York, ils veillent toute la nuit.
Et c'est ça, et c'est ce qui s'est passé, c'est un peu l'insouciance américaine et les messages contradictoires. Nous, on a l'avantage d'avoir un premier ministre qui est là tous les jours, qui dit les vraies affaires. Il y a comme une transparence, il y a comme une pertinence de son propos, puis surtout, je trouve, une humilité. Il a touché, il est vraiment la bonne personne à la bonne place, comme disait Lucien Bouchard. Et tous les jours, il y a comme une crédibilité. Dis-nous où on est rendu. Il ne fait pas de faux espoirs, il rassure, mais en même temps, la situation, elle est difficile, mais à court terme. Les Québécois qui nous écoutent, c'est une question de temps. Il faut être résilient, il faut être patient. On n'est pas patient comme peuple, nous.
Non,
on est très solidaire, mais pas patient.
Mais je pense que c'est pas seulement nous. Je regarde l'insouciance qui règne au Japon. Demain, mesdames, messieurs, nous allons regarder ce qui se passe au Japon. Leurs statistiques ne collent pas, Jean-Marc. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est la vie normale au Japon. On ne teste pas, on fait semblant que le coronavirus n'existe pas. Sauf que le ministre de la Santé a levé la main aujourd'hui. Il dit, on risque d'avoir un très mauvais réveil, très mauvaise surprise, parce que rien n'est arrêté au Japon en ce moment.
Oui, puis ils ont réussi quand même à endiguer dans un premier temps, parce qu'actuellement, il y a seulement 1500 cas au Japon, 49 morts. Donc, c'est loin des statistiques américaines, là. Mais ce virus-là, on ne le connaît pas. Les études commencent à évaluer l'impact de ce virus-là directement. Ce qui est sûr, c'est que le seul conseil aux citoyens, c'est qu'assurer, il faut continuer, il faut persister à être isolé, il faut être de moins possible en contact avec les gens, ou au moins à 2 mètres de distance, ne sortez que si c'est nécessaire. Ces mesures-là vont avoir un impact si particulièrement les 20% d'irréductibles changent d'avis. C'est notre travail aussi d'avoir une pression psychologique sur les gens. Mais les Québécois sont très solidaires dans ce cas-là. C'est pas pour rien que Legault a 94% d'appui. Là. Ouais. Il y a une solidarité. Le problème, c'est qu'on est solidaire en peu de temps. Là, ce qu'il faut, c'est de durer. Durer 2, 3, 4 semaines, puis après, la vie normale peut reprendre.
Alors, Jean-Marc, il nous reste une minute. Comment vois-tu le dénouement et surtout dans quel monde vivrons-nous quand l'anxiété, la peur sera derrière nous? Soit par la présence d'un cocktail de médicaments, les coronavirus d'ailleurs sont souvent surprenants, des fois ils meurent d'eux-mêmes, là où, enfin ils s'en vont. Comment vois-tu le redémarrage de notre monde?
Ah, moi, je pense que je vois ça dans la joie. C'est une question de temps, là, tout ça. Ça va revenir. On n'a pas perdu ce qu'on a perdu. Les emplois vont venir. L'économie va repartir. Le problème, comme on disait, c'est qu'on ne sait pas exactement à quel moment. Mais on ne sera pas pareil parce que ça fait longtemps qu'on prévoit qu'il y aura une pandémie. Ça fait longtemps qu'il y a toutes sortes de livres, de films et d'aventures autour de la pandémie. Là, on la vit réellement tous les jours. Ça prend du courage, mais c'est une question de temps.
Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir se serrer la main ou se faire des câlins un jour?
J'ai bien hâte, Paul, de te serrer la main.
Et non pas
de... moi, c'est la même chose. Ma mère a 93 ans.
Mon père,
je peux pas aller la voir. T'as.
Ben oui, je l'aurais présenté à mon père il y a 94 ans. Merci beaucoup, Jean-Marc. Ça fait
toujours
du bien.
Un plaisir, Paul.
Ça fait du bien. Merci beaucoup.
Au plaisir.
Au revoir. On s'arrête et puis après ça, on s'en va à New York.